Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre invitation. Le plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai fait bien sûr un choix, j'espère qu'il soit inspiré par le Seigneur, à savoir un message dans Ruth, le premier chapitre de Ruth. Et c'est quelque part un message comme ça qui a une portée, on va dire, aussi entre autres féminine. Puisqu'il est question essentiellement de dames dans ce texte, j'ai choisi diverses photos avec des fleurs, contrairement pour une fois à la montagne. J'ai intitulé ce message « Une prise de décision débordante de foi ». Et nous lisons dans Ruth, chapitre 1er, nous lisons tous les versets, de 1 jusqu'à la fin donc du chapitre, jusqu'à 22. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kidjon. Ils étaient Ephratiens, de Bethléem au Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elles y avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elles habitaient, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et aussi envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut, et lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Mais tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant déterminée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Mais est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Ce récit se déroule donc pendant la période des juges, entre 1375 avant Jésus-Christ et 1050. C'est donc une très longue période que la période des juges, puis c'est une période qui est environ de 325 ans. C'est énorme. On a du mal parfois un petit peu à comprendre le temps, la durée dans les textes bibliques, mais 325 ans, si on voulait une comparaison, si on revenait en arrière, ça nous mènerait à l'époque du roi Louis XIV en France. La Suisse n'existait pas, donc on imagine on aurait des chevaux, des armées, voyez, quelque chose d'extrêmement ancien. Le livre de Ruth est une source d'espérance vraiment extraordinaire. Il y a divers malheurs successifs dans ce chapitre 1, c'est prenant. Il y a des femmes qui renoncent à se laisser mourir et qui humblement se mettent en mouvement. À l'époque des juges, Israël était dans une situation en plein déclin. C'était extrêmement difficile. Le pays, globalement, sur le plan social, économique et autres, était au plus bas. Tout était en train, pas après pas, étape après étape, à s'effondrer. Or, Dieu, dans ce livre, et c'est ce qui m'interpelle personnellement beaucoup, montre sa grâce, il montre sa bonté, il montre son amour. Et nous arrivons au premier point, je vais essayer de faire juste, ça a l'air d'aller. J'ai choisi un chardon là comme photo parce que nous l'avons entendu dans cette lecture, Naomi vit vraiment des temps terribles. Quand le malheur s'acharne sur quelqu'un, ça arrive que des personnes passent vraiment par des temps très difficiles. Eh bien, le malheur apporte souvent soit une certaine solidarité, pas forcément toujours, et parfois une sorte de prise de distance. Je m'explique. Il y a souvent de la solidarité si la personne est considérée comme quelqu'un qui vraiment a la poisse, comme on dit, n'a rien fait pour attirer le malheur sur elle, que personne ne comprend et qu'on arrive vraiment à lui transmettre de la compassion. Par contre, il y a déjà beaucoup moins de solidarité, beaucoup plus de distance, et nous devons réfléchir parfois à ces problématiques, dans le sens que si on se dit, ou si on a l'impression d'avoir observé que la personne a tout fait pour attirer les malheurs qui arrivent dans sa vie, nous aurions tendance à prendre la distance. Le malheur, nous le savons, est rarement contagieux. Il faudrait vraiment des maladies particulières pour que le malheur soit contagieux. Et pourtant, nous réagissons souvent, et les chrétiens aussi, à cette tendance de, quand on voit le malheur, c'est comme s'il était contagieux. Naomi et Elimelech, bien sûr, qui est mort très rapidement, ils sont sur une pente glissante. Ils sont spirituellement dans une dimension d'éloignement de Dieu. Ils quittent le pays. On nous a dit clairement que c'est en raison d'une famine. Ce qui surprend, c'est qu'il semble que ce n'est pas un effet, je dirais, majoritaire. Ça semble plutôt marginal que de quitter le pays malgré la famine. Mais eux décident de le faire et on ne sait pas pourquoi. Souvenons-nous tout de même que partir en pays de Moab n'était pas forcément une bonne idée. Parce que c'était un pays, certes voisin, mais c'était un pays qui n'était pas béni de l'Éternel de par une très grande idolâtrie, tellement grande qu'ils offraient des sacrifices humains à leur Dieu, donc ils brûlaient certains enfants. Et Dieu, évidemment, avait ça en abomination. Alors les voilà donc qui quittent leur pays, et en quittant le pays, il y a une sorte de message. Cette famille quitte quelque part Dieu, il quitte les promesses de Dieu. Il manifeste dans une certaine mesure un manque de confiance. Mais évidemment qu'on ne va pas les juger, parce que ce n'est pas si évident dans nos vies aussi de toujours prendre les bonnes décisions, vous le savez. Et dans l'épreuve, c'est d'autant plus difficile de prendre les bonnes décisions, des décisions de confiance. Alors voilà que Élimélec, semble-t-il, quand même assez rapidement, perd la vie, il meurt. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Naomi, pour les deux fils, parce qu'ils sont en pays étranger. Donc ça devait être d'autant plus difficile. Et puis, la vie reprend gentiment son cours, comme dans toutes nos vies. Les deux fils se marient. Ça devait être une bonne nouvelle, quelque chose de réjouissant. Or, normalement, s'ils avaient suivi la volonté de Dieu, il n'était pas permis à l'époque que les Israélites se mélangent avec des pays étrangers qui étaient dans l'idolâtrie et fassent des alliances par mariage. Donc ils étaient dans une situation qui était vraiment parfaitement à la ressemblance de ce qui se passait durant ces 300 ans et plus à la période des juges. À savoir, vous vous souvenez de ce verset dans Juges 17:6, « Chacun en Israël faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait un peu ce qu'il sentait et comme il le ressentait. Autrement dit, il faisait sans Dieu, il faisait sans ses commandements, il faisait aussi sans sa grâce. Et aujourd'hui, nous vivons globalement dans un pays où chrétiens, nous sommes vraiment peu nombreux et nous vivons dans une atmosphère, une société que je ne critique pas, elle est ce qu'elle est, mais où nous devons avoir conscience que les gens font comme bon leur semble et font comme ça leur paraît juste dans leur propre intérêt, bien sûr, parce qu'on regarde inévitablement beaucoup à soi. 10 ans passent, c'est quand même beaucoup, 10 ans. La vie a repris son cours, comme je l'ai dit, et d'une manière vraiment étonnante, malgré ces 10 ans écoulés, il y a une certaine stérilité dans cette famille. Les deux fils se sont mariés, on peut se dire, c'était quand même quelque chose de réjouissant, or il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'enfants. Très surprenant. Les deux belles filles sont sans enfants. Alors qu'il y en a une, on peut se dire, ça arrive. Mais les deux, il y a quand même là quelque chose de surprenant. Naomi, inévitablement, à mon sens, devait quand même se poser certaines questions. Perdre son mari, avoir deux fils qui se marient, se trouver là à l'étranger, puis pas de petits-enfants. Elle devait être passablement troublée dans son questionnement. Et tout à coup, ses deux fils meurent. Et on peut imaginer. Quand on lit les textes ou quand on regarde la vie des autres, il se trouve que, on n'est pas en plein dedans, on n'est pas au cœur de la vie des autres, donc ça semble relativement éloigné de notre vécu. Par contre, quand on lit un tel drame, on arrive à imaginer que ça devait être vraiment très très difficile. Et là, Naomi prend une décision. Elle prend une décision radicale. Elle se dit maintenant, il faut vraiment que j'avance. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et elle se met en route. Elle se met en route d'abord intérieurement. Et ce n'est pas toujours si facile de se mettre en route intérieurement. Elle avait quand même encore dans son malheur les deux belles filles qui lui restaient. Elles étaient étrangères, elles savaient qu'elles étaient quand même en principe attachées à leur pays. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Au cœur de l'épreuve, toute la Bible invite à persévérer toujours, dans la foi, à jamais abandonner Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes décisions, et nous le voyons chez Naomi. Naomi donc part. Elle dit, je vais rentrer dans mon pays. C'est une décision qu'elle a prise toute seule. Elle n'a pas consulté ses belles filles. Naomi se place non pas en victime, mais elle se place dans sa réalité. Elle manipule personne. Je trouve ça extraordinaire. Elle ne dit pas à ses belles filles, vous devez m'accompagner, vous n'allez pas me laisser tomber. avec tout ce que j'ai déjà vécu, Naomi sait qu'elle n'a plus rien à offrir. Elle ne peut rien offrir à ses belles-filles. Et néanmoins, elle libère son entourage, elle les libère. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Elle est extraordinaire. Et là, elle commence à porter du fruit. Elle commence gentiment, mais je pense que c'est pas au tout début de cela, parce qu'elle avait cette foi, mais elle est là à manifester indirectement, malgré les épaules, malgré son drame, la présence de Dieu dans sa vie. Elle demeure un témoignage d'espérance, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et ça, ça m'interpelle. Je me dis, mais est-ce que quand nous vivons l'épreuve, est-ce que quand nous sommes amers, parce que l'épreuve nous rend amers, nous rend dans le doute, nous conduit dans des moments de grands questionnements, est-ce que le témoignage de l'existence de Dieu reste quelque chose de fort? C'est vraiment une question que je me pose pour moi-même. Et là, il y a un mouvement intérieur chez cette femme que je trouve extraordinaire. Parce que plutôt que de se taire, et c'est ce que j'aurais fait, je ne sais pas si vous auriez fait à sa place, mais elle invite ses belles-filles à partir, à la quitter. Elle leur dit, n'ayant rien à vous offrir, retournez dans la maison. Retournez dans la maison de votre mère, retrouvez un mari, reconstruisez votre vie sans moi. Ne vous concentrez pas sur mon malheur, mais vous avez déjà assez à porter vous-même. Et au verset 8, c'est très surprenant, et c'est là que je ne sais pas dans de telles circonstances que j'aurais fait, elle a le courage de bénir ses belles-filles au nom de l'Éternel. Alors qu'en apparence, c'est un Dieu terrible que son Dieu. Elle y a tout enlevé. Mais elle garde l'espoir, elle les bénit au nom de l'Éternel, elle confesse que Dieu s'est tourné contre elle, mais elle continue à transmettre de l'amour, de la compassion, et de dire que malgré tout, son Dieu est un Dieu valable. Et ça, je trouve que c'est très fort. Au nom de Dieu, elle dit, mais que Dieu vous bénisse. Comme vous avez agi avec beaucoup de bonté à mon égard, comme vous avez agi avec beaucoup de bonté à l'égard de mes fils, que Dieu agisse à votre égard avec une aussi grande bonté. Allez, allez. Et elle cherche vraiment à se détacher d'elle. Elle voit Orpa qui veut vraiment la suivre, et Ruth aussi. Donc elle continue, et au verset 11, je paraphrase, mais elle insiste, Naomi, elle dit, mais ouvrez les yeux, mes chères filles, soyez réalistes, ne me suivez pas, je vous bénis au nom de mon Dieu, mais restez dans votre pays, reprenez votre vie. Et là, Orpa finit par se dire qu'effectivement, c'est l'heure de se séparer. Ne jetons pas la pierre à cette femme, on ne sait pas comment Dieu va la bénir, nous ne pouvons que penser qu'effectivement la bénédiction que Naomi a déposée sur sa vie a porté du fruit. Mais Ruth lui dit, n'insiste pas. Et on a ce verset extraordinaire où, vous l'avez entendu, où tu iras, j'irai. C'est un verset qu'on connaît bien. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Surprenant. Et tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me traite avec la plus grande rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Et la rigueur de Dieu, je me dis, ben, elle avait déjà dégusté. Hein. C'est très très beau. Et cette rigueur de Dieu dont Naomi avait été frappée, eh bien, ne l'impressionne pas. Il y a quelque chose de plus grand que Naomi, dans ses épreuves, avait pu transmettre à Ruth, qui attire Ruth au point de dire « Je te suivrai jusqu'à la mort, et ton Dieu sera mon Dieu. » Autrement dit, Naomi, eh bien, a pu témoigner quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'aimerais vivre ça. Quand je vis des traversées de doute, j'en ai. Quand par moments je suis bourlingué par la vie, et quand par moments je me dis, mais je ne suis plus vraiment un témoignage, En tout cas, il me semble, j'aimerais que transparaisse au travers de moi, malgré tout, la grâce de Dieu et l'aspect que mon Dieu est un Dieu vivant, un Dieu extraordinaire. Encore une fleur, mais cette fois c'est Ruth qui se met en mouvement, de par le choix qu'elle fait. Elle se met en mouvement, mais pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Eh bien, en raison de ce qu'elle a pu observer chez sa belle-mère, de ce qu'elle a pu entendre, de ce qu'elle a pu voir. Et les rapports belle-fille-belle-mère, on plaisante souvent à ce sujet-là, parce que c'est pas forcément tout simple. Mais là, il y avait un rapport d'amour qui était extraordinaire. Ruth, de manière évidente, comme on le dirait aujourd'hui, dans l'épreuve, au travers de Naomi, s'était convertie. Cette femme, ça semble être une évidence, comme je l'ai dit, a vu, a entendu, a perçu des choses, où elle a dit, ce Dieu-là, qu'il me traite dans toute sa rigueur si je t'abandonne, mais indirectement si je l'abandonne. Quelque chose de très fort. Ça nous encourage parce que dans nos épreuves, on voit qu'on peut être un témoignage. On voit que dans nos épreuves, Dieu peut se manifester au travers de nous d'une manière très puissante. Alors qu'on a toujours le sentiment que pour être dans un bon témoignage, il faut qu'on aille bien. Il faut surtout pas qu'on passe par des temps difficiles, parce que ça nous semble être un contre-témoignage. Ça nous semble être la définition même, la preuve même qu'on a un Dieu qui est faible, qui est impuissant, ou qui fait rien dans ma vie. C'est une erreur, ce texte nous le dit. Ruth se met spirituellement en mouvement. Elle va voyager, on peut dire, dans deux sens, à la fois vraiment physiquement, avec ses jambes, mais aussi intérieurement, grâce au témoignage de Naomi. Et l'Éternel, elle veut l'aimer. Elle veut l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Elle devient Ruth, quelqu'un qui est un témoignage, même dans le peuple même d'Israël. C'est très impressionnant. C'est comme si des gens qu'on considérait comme vraiment des païens venaient nous apporter à nous chrétiens un témoignage où on se dit, mais moi j'ai Dieu, ils l'ont pas, et leur témoignage de vie est meilleur que le mien. Ils font comment? Il y a quelque chose là de très fort. Mais Ruth avait passé par une conversion. Et ça nous interpelle, bien sûr. Son mouvement intérieur, son mouvement spirituel est total. Et elle le dit clairement. Naomi est un modèle de foi et donc de persévérance malgré sa justesse dans ses propos. Parce qu'on a l'impression qu'elle accuse presque Dieu, qu'elle le traite comme un Dieu qui est vraiment dur. Et pourtant, elle est un témoignage malgré les souffrances et le malheur. Et ça, c'est extraordinaire. Un témoignage qui suscite l'admiration, l'interpellation et finalement, comme je l'ai dit, eh bien, la conversion. J'ai choisi une fleur qui arrive à maturité et où les graines, gentiment, vont se répandre. Naomi sort du rôle de victime et n'hésite pas à dire que Dieu s'est levé contre elle, donc elle est très honnête. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Elle le dit au verset 13, au verset 21. Mais en rentrant en Israël, indirectement, elle recherche malgré tout son Dieu. Elle cherche à revivre avec lui. Elle aurait pu, à mon avis, se justifier, Naomi. On peut déjà l'entendre indirectement. À cette époque-là, je ne sais pas si les femmes avaient grand-chose à dire. Aujourd'hui, elles revendiquent davantage et puis elles osent dire quelque chose. Mais à l'époque, peut-être qu'elles n'avaient pas grand-chose à dire et qu'Elimelech a pris la décision seule en disant « on part en Moab, point ». Et puis Naomi, peut-être qu'elle n'a pas pu dire grand-chose. Eh bien, elle ne trouve pas d'excuse. Elle n'accuse pas son mari. Elle dit que les choses sont comme ça, qu'elle s'est trouvée en Moab, et puis qu'elle accepte d'assumer. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Il y a quelque chose qui est beau qui nous parle, si on assume nos situations, Dieu va d'autant plus nous aider. Elle n'excuse pas Dieu non plus. Moi, à sa place, pour garder un bon témoignage, je crois que je me serais dit, je vais tâcher de me garder de dire que Dieu est contre moi. Parce qu'alors, les autres, ils vont surtout pas s'intéresser à ce Dieu-là. Mais elle le dit, elle n'excuse pas Dieu, puis elle n'accuse personne. Ça, c'est quelque chose, c'est des leçons à retenir qui sont formidables. Dieu aurait pu éviter ces drames. Il aurait pu peut-être conduire les choses autrement que par des deuils. Il a fait les choses comme ça. Elle accepte sa réalité, elle accepte les choses comme ça s'est vécu, et elle dit maintenant, je retourne en Israël, c'est sa décision. Et Ruth la suit. Magnifique. Ce mouvement intérieur et libérateur l'a déjà sauvée. Sauvée d'une catastrophe telle une immense dépression où sans doute elle n'y aurait pas survécu. Et ça va la sauver encore puissamment dans son avenir, et nous le lisons dans les chapitres suivants. Et je vous invite à les lire, je crois que Ruth c'est 85 versets, donc c'est pas très long, mais c'est quelque chose d'extrêmement beau. Il y a une descente aux enfers, c'est le cas de le dire, et dès le premier chapitre, ça remonte gentiment. Et ça donne une espérance extraordinaire pour Naomi, pour Ruth, mais évidemment pour nous aussi. J'arrive à la conclusion. Ce livre de Ruth est un livre pétri d'humanité. La présence de Dieu, elle est là, mais en même temps, elle n'est pas comme dans Daniel ou dans des aventures avec David ou autre, d'une manière très musclée. Non, c'est discret, mais Dieu est très présent. Ce Dieu apparemment silencieux, comme nous le voyons parfois aussi dans nos vies, ce Dieu qui par moments semble aussi absent de nos épreuves, n'abandonne jamais ses enfants. Et ce livre est un encouragement dans ce sens-là. Dans ce qu'on traverse, Dieu le sait et Dieu ne nous abandonne pas. Nous vivons par conséquent aussi des circonstances difficiles, je ne vous connais pas personnellement, mais si vous êtes des êtres humains, ce que vous avez l'air d'être, je crois qu'on a tous des épreuves. Et puis on a tous certaines facultés à leur faire face. On a plus ou moins de force, mais gardons confiance. C'est tellement, tellement important. Nous doutons, nous nous éloignons parfois de Dieu, ou nous avons des enfants, des frères et sœurs, ou des amis qui venaient à l'église, qui étaient des chrétiens, qui nous semblaient engagés, qui se sont éloignés de Dieu. Et bien que nous puissions prier pour eux, prier pour nous, parce que Dieu, dans un retour, nous accueille toujours et accueille toujours les autres. C'est bien sûr l'histoire, par exemple, du fils prodigue. Nous prenons nous aussi parfois des mauvaises décisions. J'ai pris parfois dans ma vie des mauvaises décisions, j'ai dû les assumer. Je me souviens plus si j'ai beaucoup accusé les autres ou accusé Dieu. Peut-être qu'il y a eu un peu de ça en moi à certains moments, mais nous sommes obligés quand même d'assumer nos mauvaises décisions. Et je crois que c'est quand on les assume que Dieu peut vraiment nous secourir. Donc que nous puissions apprendre du livre de Ruth. Dieu s'est servi de cette famille, malgré tous les décès, malgré le malheur qui leur est arrivé, que Dieu a permis, et je l'ai dit, hein, Naomi ne se gêne pas de dire que c'est Dieu qui a fait tout ça. Eh bien, Dieu s'est servi de cette famille, l'a fortifié dans la foi pour aller chercher quelque part Ruth et pour nous permettre aujourd'hui encore de vivre au travers de ce texte de quelque chose d'extraordinaire au niveau encouragement. Nous découvrons un Dieu de grâce, c'est notre Dieu, un Dieu tout-puissant, c'est notre Dieu, et un Dieu qui connaît toutes choses, et il connaît toutes nos vies. Alors j'aimerais vous bénir, au travers de ce message, vous dire de ne jamais vous décourager, de continuer à prier si vous avez pris des mauvaises décisions, si vous en voyez d'autres prendre de mauvaises décisions. Il y a toujours une espérance, et même si on ne voit pas toujours beaucoup Dieu, si on a l'impression qu'il est silencieux, absent, ce n'est pas le cas. Gardons confiance, soyez bénis, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ce premier chapitre de Ruth, quand on lit, on descend avec elle, avec cette famille, aux enfers quelque part. Et en plus, Ruth, Naomi est très claire, elle dit, mais c'est Dieu qui s'est détourné de moi, qui s'est même mis contre moi. Et Seigneur, nous pouvons vivre des temps difficiles parfois, mais nous voulons toujours tout à nouveau te faire confiance. Nous voyons combien tu veilles, combien tu n'oublies pas, combien tu accompagnes sur nos chemins de vie tout ce que nous faisons, combien même parfois nous accomplissons des choses qui ne sont pas toutes justes ou que nous décidons des choses qui ne sont pas toujours des bonnes décisions. Merci pour ta grâce, merci de fortifier et nos vies et l'Église, parce que c'est aussi sur le plan commun que ces choses arrivent, et que tu puisses, Seigneur, nous montrer le chemin, guérir nos vies, intervenir et nous permettre, Seigneur, de connaître le bonheur en toi. Sois béni et grandement remercié en toutes choses. Amen.